le Japon avec Philippe Pelletier. Bonjour Philippe Pelletier.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes en direct de Saint-Étienne et vous êtes enseignant à Lyon, géographe. Vous êtes déjà venu au matin, notamment pour vos idées reçues sur le Japon, publiées au Cavalier Bleu. Philippe Pelletier, je crois savoir, en préparant cette émission hier, que beaucoup de choses vous ont tout de même un peu intrigué dans le traitement de l'information sur ces catastrophes, tsunamis, tremblements de terre, tsunamis, accidents nucléaires au Japon. Vous me disiez que si on lisait attentivement votre atlas du Japon, publié chez Autrement en 2008, eh bien, la catastrophe, le séisme du 11 mars dernier, montre que ce phénomène était prévisible et même prévu.
Absolument, on peut même remonter plus loin. Mon premier livre sur le Japon, Géographie universelle, piloté par Brunet, en 1993, je mettais la même carte. Mais j'ai aucun mérite, hein. Une thèse d'un géographe japonais qui s'appelle Yamaguchi Yaichiro, rédigée dans les années 30 et 50, faisait déjà état effectivement de ce risque de tsunami sur la région du Sanriku.
Mais alors si on connaît ce risque-là depuis les années 30 et 50, comment se fait-il qu'on ait urbanisé, construit centrales et autres industries dans ce coin-là, Philippe Pelletier ?
Alors je pense qu'il faut vraiment avoir une approche géographique du pays qui manque malheureusement à beaucoup de commentateurs pressés ou sensationnalistes. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, la plaine de Miyagi de Sendai, où se trouve la principale ville de 1 million d'habitants, mais qui se trouve à une dizaine de kilomètres du rivage.
Au nord du Japon ?
Oui, et qui n'a pas été vraiment touchée. La plaine a été touchée, hein. Moi, j'ai reçu un mail d'un de mes étudiants qui se trouve à Sendai. Il m'écrit, on a été bien secoué, je joue aux réfugiés depuis parce que mon quartier n'a ni eau ni électricité, mais nous sommes loin du tsunami qui a été la vraie source de dégâts, je ne vis rien de ce que vous pouvez voir à la télé, aucun bâtiment ne s'est écroulé, et la ville se remet en marche doucement. Alors ça, c'est pour Sendai. En revanche, pour la partie qui se trouve un petit peu plus au nord, et qui est un petit peu plus avancée dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire la côte du Sanriku, qui est une côte extrêmement escarpée avec des rias. Alors là, oui, les dégâts ont été extrêmement importants, mais il y a des digues anti-tsunami de 10 mètres qui ont en partie contenu les dégâts, en partie. Hein.
Alors, cela, justement, alors, dans ces cas-là, vous analysez tout de même la situation comment ? Parce que même si l'on parle justement du noble calme des Japonais devant la catastrophe, toutes les alertes ont fonctionné, si ce n'est que le problème, c'est que la vague en question allait extrêmement vite, hein, 700 km/h, et a mis moins de 10 minutes pour parcourir les 150 km qu'il a séparés de son épicentre, grosso modo.
En réalité, une demi-heure. Donc ça a été assez suffisant pour la plupart des habitants pour gagner les hauteurs proches dans ces régions-là. Bien sûr, cela n'a pas empêché les dégâts dans la vallée et dans le port, hein, qui sont absolument spectaculaires, nous sommes d'accord. Mais vous voyez, le séisme de 1896, il avait fait 27 000 morts. Celui de 1933, il en a fait 3008. Les premières grandes digues ont été construites en 1958. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, et ce géographe japonais qui a travaillé sur la région aussi, c'est que malgré les risques, les populations préfèrent rester. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est le pays des ancêtres, et d'autre part, parce qu'il y a une richesse, et la richesse, c'est la mer, c'est le poisson. C'est-à-dire que c'est l'une des zones poissonneuses les plus riches du monde, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la mer, elle est à la fois menaçante, mais nourricière.
Jean Guinel.
Parlons d'avenir un peu. Qu'est-ce que réservent les années qui viennent dans cette région ? Est-ce que ce sera une reconstruction sur place ? Est-ce qu'ils vont éviter de rebâtir des maisons d'habitation sur ces mêmes terrains inondables ? Est-ce qu'on va avoir ce même débat qu'en France où, après Xantia, les pouvoirs publics ont dit on rase tout ce qui reste et on interdit cette zone à l'habitation ?
Philippe Pelletier.
Écoutez, je prends volontiers les paris. Mais je prends pas beaucoup de risques parce que Kobe, en 1995, a subi un certain nombre de dégâts. Hein, je rappelle plus de 5000 morts, 6000 même. Deux ans après, tout avait été reconstruit sur place. Là, pour le Sanriku, dans la mesure où il y a toujours cette richesse de la mer, dans la mesure où, à mon avis, les habitants ne voudront pas partir, les reconstructions vont se faire sur site. Alors probablement avec quelques aménagements, mais je ne vois pas franchement lesquels de nouveau. Sinon, peut-être des structures en béton davantage, mais sur site.
Mais comment expliquez-vous tout de même, alors, Philippe Pelletier, la différence de chiffres auquel on a accès, notamment issus de la police japonaise, et ce que l'on entend là, nous, dans les médias, sur les plus de 10 000 morts possibles après le tsunami?
Alors là, c'est très difficile. Je crois qu'on est à la fois dans le fantasme et dans le catastrophisme. Ce chiffre de 10 000 personnes sans contact, hein. Ça, j'ai passé ma journée hier sur les médias japonais à essayer d'en trouver l'origine. Je l'ai identifié comme étant celle de la police de Miyagi, hein, mais il s'agit bien de personnes avec qui on n'a pas de contact, hein, c'est-à-dire pas des disparus ni des morts. C'est une nuance importante, même si effectivement le chiffre des décès peut grossir. Mais aujourd'hui, à minuit, heure japonaise, la police japonaise a donné les chiffres de 3078 morts et disparus. Pour tout le Japon, hein.
Et vous le trouvez plausible, ce chiffre, ou est-ce que c'est un chiffre arrangé, entre guillemets, par la police?
Non, il est provisoire, ça c'est sûr, c'est une évidence, il n'est pas arrangé. Parce que si on regarde bien toutes les images qu'on trouve sur les médias, notamment, par exemple, le tsunami dans la plaine de Miyagi, on voit que les voitures, y a, sauf exception, bien sûr, hein, elles sont désertées, les maisons sont désertées. Certes, les maisons ont été emportées, mais on ne voit pas de personnes, sauf exception, je le répète, emportées par les vagues, appelant au secours. Alors qu'en revanche, on voit très bien, sur d'autres images, les personnes qui se sont réfugiées à temps.
Alors Philippe Pelletier, vous voulez distinguer, je crois, dans les analyses que nous devons faire sur cette actualité catastrophe japonaise, distinguer le tremblement de terre du tsunami et le tsunami de l'accident nucléaire.
Oui, ce sont deux choses différentes, dans la mesure où le tsunami est strictement inévitable, quoique relativement prévisible, au moins par des cycles et puis dans une durée courte, parce que je rappelle que depuis jeudi, c'est-à-dire avant le séisme de vendredi et même mercredi, il y avait déjà eu des séismes et la Japan Meteorological Agency avait annoncé une semaine de vigilance accrue, hein, de vigilance forte. Donc ça, c'est pratiquement inévitable. En revanche, l'accident nucléaire, j'allais dire une réponse assez triviale, eh bien, si on ne construit pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de risque.
Mais pourquoi en a-t-on construit autant tout de même à une époque où on ne jurait que par le nucléaire? Au fond, cela paraît logique qu'on ait construit autant de centrales nucléaires au Japon pour alimenter le Japon en énergie?
Oui, en sachant que 20% seulement de l'électricité est fournie par le nucléaire, 80% par les centrales au fioul ou au charbon et 10% par l'hydroélectricité, les barrages classiques et la géothermie. Pourtant, le Japon est très bien doté en géothermie et fait un ridicule 1%. Donc, c'est très clairement un choix, je dirais, économique, une parade. Hein. Mais ça nous renvoie à des décisions qui dépassent un certain nombre de citoyens japonais, on va dire.
Alors, le Premier ministre japonais a évoqué justement la catastrophe à la fois écologique et les accidents nucléaires du Japon comme étant, au fond, la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Hiroshima. Pourtant, les activistes souvent anti-nucléaires du Japon ne font pas nécessairement cet amalgame entre ce qui est, au fond, un acte de guerre et une cause naturelle de catastrophe.
Absolument. J'ai vécu 2 ans à Hiroshima, 8 ans presque en tout au Japon. J'ai côtoyé des militants anti-nucléaires. Je n'ai jamais entendu ce type d'amalgame. Et j'ai été choqué d'ailleurs dans le reportage précédent, mon intervention, les allusions sur Hiroshima. Moi, j'ai discuté avec...
Oui, mais attendez, c'est le Premier ministre lui-même là, qui fait cette déclaration, M. Pelletier.
Oui, tout à fait, mais en septembre 2009, quand le Parti démocrate est arrivé au pouvoir, on a parlé de troisième révolution. Donc, je pense qu'il est un petit peu tôt pour dire des choses pareilles, des affirmations pareilles. On peut comprendre le sens politique de ces déclarations. Le gouvernement du Parti démocrate est mal barré, on va dire ça comme ça. Donc, il y a besoin de ressouder la nation. Il est vrai que le choc est quand même important. Donc, je dirais, il ne peut difficilement faire autrement. Cela dit, à ce compte-là, le Japon est toujours en crise. Et pourtant, il rebondit tout le temps.
Mais la question d'Hiroshima n'a jamais été en corrélation avec la question du nucléaire et des installations au Japon.
C'est pas sur le même plan. Hiroshima, c'est très clairement la guerre, la fin de la guerre, une agression atomique par l'armée américaine, une bombe qui est lâchée deux fois sur Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est un contexte historique. Le nucléaire civil, c'est un choix énergétique, c'est un choix de mode de production et de consommation.
Alors j'ai envie de vous demander, vous qui avez publié, Philippe Pelletier, le Japon, les idées reçues, comment peut-on être japonais? On voit ça et là des déclarations qui louent une fois de plus le calme des Japonais face à cette catastrophe. Pourtant, que l'on soit japonais, papou, norvégien ou breton, comme Jean Guinel, j'imagine que quand un être humain voit une vague de 10 mètres arriver sur lui, il a juste envie de faire à peu près comme tout le monde, courir dans le sens inverse.
Bien sûr, il a peur, tout le monde a peur, qui n'aurait pas peur? Cependant, ce ne sont pas des extraterrestres, ils sont bien comme nous, mais ils sont préparés. Et moi, j'ai toute la journée, là, j'ai préparé un nouveau cours pour mes étudiants tout à l'heure, j'ai trouvé des images sur une région dans laquelle je suis allé, le Sanriku en l'occurrence, où on retrouve partout, je dirais, de la mémoire inscrite dans les rues, dans les paysages, de la présence du tsunami, c'est-à-dire les voies d'évacuation anti-tsunami, les digues anti-tsunami, les plans d'évacuation, la hauteur des vagues atteintes. Donc si vous voulez, c'est inscrit dans la mémoire, alors même si des jeunes générations ne sont pas forcément au courant ou ont un peu oublié ou n'ont pas vécu, il y a quand même ces traces-là. Et puis, surtout depuis Kobe, depuis 1995, il y a eu une relance quand même des politiques d'adaptation et de comportement en cas de catastrophe sismique.
Donc le japonais, si j'ose dire, est tout de même un être un peu particulier, hybride, qui peut insouciamment, le soir après le bureau, jouer des heures au pachinko, en ayant quelque part dans le cerveau la sensation, le sentiment du risque.
Il n'y pense pas forcément, comme le breton ne pense pas forcément s'il va pleuvoir le matin ou l'après-midi.
Il est habitué.
C'est rare.
Donc, si vous voulez, c'est pas une peur comme nous quand on prend la voiture. Est-ce qu'on a peur de l'accident dans les minutes qui viennent? Non, c'est autre chose. Je pense que c'est un fonctionnement collectif de préparation avec une très très grande discipline et qui fait ses preuves, qui fait ses preuves.
Philippe Pelletier, nous arrivons au bout de ce premier quart d'heure. Vous êtes géographe. Est-ce que la probabilité de ce qu'on appelle ce fameux Big One qui doit surgir pour frapper Tokyo, vous paraît-il, vous, être quelque chose qui est très probable? Ou encore une fois, là, on ne peut pas non plus jouer les Madame Soleil?
Écoutez, quand j'étais au Japon en 1989, le Big One devait être pour l'année suivante. Il est possible que ce soit celui-ci, mais si vous voulez, on ne peut pas prévoir de façon sérieuse ce genre de séisme. Peut-être est-ce celui-ci, peut-être pas. C'est vraiment impossible.
Philippe Pelletier, je rappelle que vous avez publié les idées reçues sur le Japon au Cavalier Bleu, entre autres nombreux ouvrages que nous mettrons sur le site des Matins de France Culture, et donc votre Atlas du Japon publié en 2008 chez Autrement. Pour y faire une transition, Jean Guinel, est-ce qu'il y a des observations à faire, des analyses à faire sur la question de la gestion humaine, que l'on soit au Japon, catastrophe naturelle, ou en Libye, guerre civile?
Ce qui va rassembler les deux événements, c'est l'après. C'est-à-dire que dans des situations de chaos, qu'elles soient provoquées par une guerre ou par un événement,